petite méditation que vous proposez, qui est d'origine les premiers chrétiens en l'an 50, les martyrs de Saint-Pierre et Saint-Paul en l'an 150, c'est le martyr du philosophe Saint-Justin et ses compagnons, et en l'an 250, c'est Origène. C'était l'époque de Plotin. C'est la fin de l'ancienne alliance philosophique. Toute la sagesse grecque elle a fait ses 400 ans de pèlerinage et elle a donné sa dernière fleur avec Plotin. Et Plotin était. Et Origène se connaissait. Et Origène, lui, avait reçu le baptême. Il était devenu chrétien. Et Plotin. Plotin, lui, c'est le parfum terminal de la sagesse humaine, la sagesse grecque. Et Origène, il se dit d'Alexandrie, ils avaient. Il y avait une profondeur. Vous savez, quand Plotin était ermite, il était dans sa grotte. Et quand et Origène aussi avait des disciples. Mais, donc, quand tu rentrais dans la sagesse, il fallait un maître. Donc, il fallait que tu puisses, à travers ce qu'il disait, rentrer dans sa surabondance et le suivre. C'est ça la sagesse grecque, tu ne transmets pas des paroles. Tu fais naître ton disciple à ce dans quoi tu es emporté, dans une vérité vivante. Et Plotin, c'était ça, il est montré sauvant, en ravissement, dans l'un. C'est la mystique de l'un, Plotin, c'est la mystique de l'être. La mystique de l'acte, la mystique du devenir substantiel. Et donc, quand il rentrait en extase, en ravissement, il fallait venir le lendemain pour continuer à faire la session. Et c'est de lui que les dominicains ont gardé cette tradition qui est dans le frontispice de leur constitution, ex contemplata tratere, je transmets le trop-plein de ma contemplation actuelle. Je ne prononce pas un mot si ce n'est pas un trop-plein de contemplation lumineuse, mystique et divine, véritable. Et Origène, lui, c'est un mystique aussi, c'est une époque. Chaque génération a ses fleurs et ses parfums. Et quand vous trouverez un texte d'Origène, vous pouvez être sûr que c'est très profond. Dans les pères de l'Église, c'est celui qui est le plus joannique. Il avait le sens de l'un aussi, très très fort. C'était tellement fort ce premier moment de l'apparition de l'âme. mal compris à l'origine, je crois, parce que on a dit, oh, c'est tellement important, cette origine de l'âme, voilà, qui la rend presque éternelle. C'est comme si l'âme était... Mais c'est une mystique, la mystique de l'âme. On aurait presque l'impression que l'âme précède tout dans l'âme, c'est vrai. Dieu précède tout dans l'âme, Dieu précède tout. Et l'âme est unie à Dieu. Il y a l'inscription dans le livre de vie, qui est dans l'au-delà du temps, si je puis dire. Tout ça, c'est la mystique de l'âme, c'est la mystique de la créateur. C'est joannique, le verbe de Dieu vient éliminer chaque être humain à l'instant où il le fait exister dans ce monde. Mais les gens qui comprennent matériellement, alors du coup on a dit, il y a un risque avec Origène de penser ou de croire que l'âme précède à l'instant même où Dieu l'a fait exister dans l'être d'une nouvelle personne. Et si elle existe à un autre moment qui est autre que l'instant présent de la créateur de Dieu dans l'être humain, dans notre univers, c'est parce que Dieu nous crée par amour et nous porte dans le Bereshit. L'Immaculée Conception, l'Église le dit bien. Avant la création du monde, j'étais là. Donc, Origène, on ne peut comprendre qu'à partir du moment où on a saisi intérieurement l'Immaculée Conception. Comme sagesse terminale de la Créateur de Dieu sur notre âme. Voilà ce qui se passera. Lorsque, dans la Pentecôte de l'Immaculée Conception, dans chacune de nos conceptions, on va faire surabonder notre lumière dans l'unité avec Dieu, dans l'unité avec tout, dans l'unité avec le bien, avec l'amour, dans l'unité avec le surgissement de l'existence de la vie. Alors, la fin d'introduction à la compréhension de qui parle, de quoi c'est origine qui parle. Précieuse est la lampe pour ceux qui sont dans les ténèbres. Oui, elle est précieuse, la lampe, pour ceux qui sont dans les ténèbres. Elle est précieuse, cette lampe, pour ceux qui en ont besoin jusqu'au lever du soleil. Elle est précieuse de la même façon que elle est précieuse la gloire resplendissante du visage de Moïse. Et aussi, je crois, la lumière qui déborde de celui des autres, du visage des autres prophètes. Elle est précieuse, cette flamme si belle à voir, et elle nous aide à progresser jusqu'à ce que nous puissions contempler la gloire du Christ, à laquelle le Père rend témoignage. Quand le Père dit celui-ci, est mon Fils bien-aimé, en lui je trouve toute ma joie. la gloire du Christ, dont le Père parle, mais ce qui, dans une certaine mesure, a été glorieux, dit saint Paul, ne l'est plus, parce que il y a maintenant une gloire incomparable. Mais c'est sûr. Lorsqu'ils vivaient du Messie, Moïse, lorsqu'ils en étaient remplis, que la vie intime du Messie, l'onction du Christ, les remplissait, cette communion de vie et de lumière dans l'unité totale. Ils étaient dans un seul vase, et donc ça, ils vivaient la transfiguration. Hein. Le visage de Moïse, le visage des prophètes, le visage de Simeon, Anachi, celui qui a marié Marie et Joseph, et présenté Jésus au temple. Nathanaël, celui des 12 apôtres, qui était au Kmaïa Talmud avant d'avoir rencontré Jésus. Combien de fois s'était allumée la lampe de l'Ancien Testament, la surabondance de la lumière chaleureuse du Messie vivant en lui, débordant, faisant que sa parole fécondait et convertissait tout le monde dès qu'il l'écoutait. Cette lumière, ce serait bon, on aurait ça hein, dans les églises catholiques, c'est merveilleux. Chaque sermon, le prêtre surabondant tellement du Christ qu'il enverrait des effluves de cette surabondance du Christ à travers son visage, à travers la parole atteignant les oreilles, fécondant à tous ceux qui l'écoutent, une libération, une lumière identique. Si tous les prêtres étaient sous le figuier, hein, pas mal. Mais la lumière du Verbe de Dieu est plus grande que celle du Christ. La lumière du Verbe de Dieu est plus glorieuse que celle du Christ. C'est ça qu'il veut dire. C'est ce que disent tous les textes. Et nous avons besoin, dans un premier temps, de cette lampe précieuse de ceux qui sont dans les ténèbres, jusqu'à ce que vienne le lever du soleil. Nous avons besoin, en un premier temps, d'une gloire susceptible de disparaître, de s'effacer devant l'âtre gloire incomparable. Comme nous avons besoin d'une connaissance partielle qui sera dépassée quand viendra l'accomplissement de cette connaissance partielle. Et donc, toute âme qui est encore dans l'apprentissage, dans l'enfance, et chemine vers l'accomplissement et de la perfection, a besoin d'un pédagogue, d'économe, de tuteur, de maître, jusqu'à ce que s'instaure à l'intérieur d'elle, de manière définitive, la plénitude des temps. Et ainsi, celui qui d'abord n'a aucune différence dans la maison avec l'esclave, l'enfant dans la maison, alors qu'il doit être un jour le maître de toute la maison. Et bien celui-là même sera finalement racheté de son esclavage, affranchi de cet apprentissage, et il recevra de la main du maître et des économes et des tuteurs et des éducateurs et ses maîtres son héritage, tout le patrimoine de la maison. C'est pourquoi, bien compris, la Torah et les Anaouim sont les rudiments. Des lampes merveilleuses et précieuses, mais elles nous conduisent à bien comprendre l'Évangile et tout le sens et toute la signification et à partager toute la vie du Christ. Plotin était en train de donner la communication de ses surabondances à ses disciples. Et à un moment donné, il y avait du monde et Origène est rentré quoi, dans l'assemblée, il l'a vu. Il a reconnu Origène. Alors il s'est arrêté. Plotin s'est arrêté. C'est ça qui est extraordinaire, il s'est arrêté devant le plus petit, dans le royaume des cieux du Christ, enfin, du Verbe de Dieu. Et quand Plotin est mort, ouais, je fais un serment sur Plotin finalement. Mais c'est non, c'est pas un serment sur Plotin, c'est la lumière et la gloire. Celui qui enseignera la moindre petit. Il faut que c'est pas important cette lumière chaleureuse qui nous conduit vers la substance incréée du Christ, celui qui méprisera ces petits points, ben, je suis son accomplissement, ben, il sera plus quand il est comme le dernier dans le royaume des cieux. Quand Plotin est mort, ses disciples étaient là dans sa grotte, et vous le savez, il dit, j'essaye de conjoindre, nous essayons de conjoindre en nous le divin, qui est dans l'univers et le divin, qui est au fond de nous, en un seul divin. Et ayant dit ces choses, il s'endormit. Il est tombé dans son extase, il s'est endormi, mais là, c'était la dernière fois. Alors nous vîmes un serpent et qui se glissa sous son lit et alla contre la paroi du rocher se réfugier dans la creux du rocher. Impressionnant. La sagesse immaculée de l'Église, elle s'engloutit et se cache sous le lit. Toutes les lumières chaleureuses qui conduisent à Dieu dans le Christ Jésus notre Seigneur, dans le creux du rocher, la blessure du cœur. C'est un beau signe, hein, je trouve. Et le Christ, il a accompli toute la Torah. Le moindre yod, le moindre le trait de la Torah, il y a obéi. Il est rentré à l'intérieur du moindre petit trait de la Torah et des prophètes. Et c'est ce qu'il a fait. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il est rentré dedans. C'est pour ça qu'il y a des... Dans l'Église chrétienne, on sent qu'il y a un souci de l'obéissance. Même ça, c'est dans l'Ancien Testament. Un souci de l'obéissance pour pouvoir laisser à un moment donné s'effacer les rubriques et que l'Esprit Saint puisse fondre à l'intérieur de la messe pour réaliser la lumière incréée communiquée dans la Jérusalem dernière. Et... Et on a ce souci, nous, hein, l'esprit de pauvreté, d'humilité, mais il y a. On sait que c'est très. Il faut suivre faut pas dire ça n'a pas d'importance. Et il faudra de plus en plus y être attentif à ça. Plus on s'approche, enfin, de plus en plus, on sera de plus en plus attentif aux règles. Enfin, aux petites règles. Aux petites règles. C'est vrai. Avec Saint-Joseph, dans la moindre, la plus petite chose, il y avait la puissance de la substance, dans sa présence incarnée, hein, de la paternité incréée de Dieu. Plus petite chose en lui. C'est mercredi aujourd'hui de Marie, mère de l'Église. On va se laisser recouvrir en tout par. Elle, pour qu'elle puisse surabonder, faire surabonder avec dans sa responsabilité avec Saint-Joseph. Parce qu'il y a plus petit en nous, le corps spirituel venu de eux, pour qu'il puisse s'envoler en haut, dans l'agneau de Dieu, épanouissant les surabondances du Saint-Esprit, dans l'intimité substantielle de sa personne, dans l'unité de nature éternelle de Dieu. Il y a un enveloppant qui fait le passage dans la maternité divine de Marie sur l'Église. Voilà, il faut se laisser envelopper, hein, envahir, surabonder et du coup assumer dans le cinquième saut. C'est le secret, le cinquième son, c'est le secret. De la surabondance de 4 ans.